Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous continuons de lire le livre du prophète Jérémie. Nous arrivons à la fin d'une section qui commençait par la confirmation de sa vocation prophétique. Donc au chapitre 16, les versets 1 à 13, où on voit que Dieu lui demande que sa vie tout entière soit un signe, qu'elle devienne une provocation pour ses interlocuteurs, parce qu'il devra rester célibataire, ce qui en Israël est très rare, et surtout marginal, pour montrer au peuple d'Israël et de Juda que Dieu va leur retirer sa confiance et les abandonner au désastre qui s'approche. Nous nous étions arrêtés à la longue lamentation de la fin du chapitre 18, où une nouvelle fois Jérémie se plaignait de son sort à cause des persécutions qu'il doit endurer de la part de ses contemporains. Reprenons donc le texte au chapitre 19 avec un nouveau geste prophétique demandé par Dieu. Je vous lis le verset 1. « Ainsi parle le Seigneur, va et achète une cruche en terre cuite. Prends quelques anciens parmi le peuple et les prêtres et sors vers le val de la Géhenne à l'entrée de la porte des Tessons. Là, tu proclameras les paroles que je te dirai. » Voilà, la vallée dont il est question est elle-même hautement symbolique, hein, la vallée de la Géhenne, puisqu'il s'agit d'une vallée étroite et profonde située au sud-ouest de Jérusalem, où à cette époque se situaient des cultes idolâtres avec des sacrifices humains, et qui ensuite devint le lieu où l'on brûlait les ordures dans un feu perpétuel, ça brûlait tout le temps. La Géhenne est donc logiquement devenue après synonyme d'enfer.
Oui. Et c'est bien le culte idolâtre hein, qui attire ici la colère de Dieu. Donc, chapitre 19, hein, là je vous lis les versets 3 à 5. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Voici que je fais venir en ce lieu un malheur. Car ils m'ont abandonné, ils ont rendu ce lieu méconnaissable, ils y ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux. Ils l'ont rempli du sang des innocents. Ils ont édifié les lieux sacrés du dieu Baal, pour consumer par le feu leurs fils en holocauste. » Alors, ce texte nous fait remarquer la différence fondamentale entre le Dieu d'Israël et les dieux païens. Là, il n'y a plus de sacrifice humain. Certains commentateurs bibliques ont fait remarquer que ce qu'on appelle hein, le sacrifice d'Abraham, quand Dieu commence par lui demander le sacrifice d'Isaac, son fils unique, pour finalement lui demander de remplacer son fils par un bélier, ce n'est pas seulement une épreuve de la foi, mais aussi une pédagogie hein, pour abandonner les mœurs anciennes des sacrifices humains. En tout cas, ici, le prophète Jérémie annonce la destruction prochaine de Jérusalem, souillée par les cultes païens. Alors, je continue de vous lire donc toujours chapitre 19, là, les versets 8 et 9. Et c'est toujours Dieu qui parle, là. « Je réduirai cette ville en un lieu désolé, en objet de dérision. » Quiconque passera près d'elle se désolera et fera entendre un sifflement de stupeur à la vue de toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Chacun mangera la chair de son prochain pendant le siège, dans la détresse où les auront plongés leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie.
Oui, c'est super comme punition. Elle a l'air à l'image du péché.
Voilà.
C'est quand même assez terrifiant, puisque la famine pousserait donc les assiégés à s'entre-dévorer. J'espère que c'est une façon de parler, que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais effectivement, le siège de Jérusalem a certainement provoqué une famine terrible, parce que ça nous est raconté dans le deuxième livre des Rois, chapitre 25, verset 3. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, on ne sait pas. Mais à cette effrayante annonce, Jérémie ajoute donc un symbolisme, celui de la cruche qu'il va briser, comme Dieu la lui a demandé. Je vous lis le verset 10 du chapitre 19. « Tu briseras la cruche sous les yeux des hommes qui t'auront accompagné, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, je briserai ce peuple et cette ville comme on brise une poterie qui ne peut plus être réparée. Faute de place pour enterrer, on enterrera même au Tophet, ainsi ferai-je de ce lieu oracle du Seigneur et de ses habitants, je rendrai cette ville pareille au Tophet. » Alors, il faut déjà savoir ce que c'est que le Tophet. C'était probablement un autel particulier dans la vallée de la Géhenne, où on sacrifiait les enfants au dieu Moloch. Et là, donc, on les brûlait vifs en offrande. C'est donc un lieu monstrueux qui deviendrait peut-être le cimetière des habitants de Jérusalem, comme une ironie terrible pour punir leur trahison de Dieu. Et Dieu qui, ici, remarquons-le, se définit lui-même comme Seigneur de l'univers, et pas simplement comme le Dieu d'Israël. Je pense que c'est ce qui nous aide un peu à lire ces textes quand même rébarbatifs, parce qu'on peut alors y deviner le lent et difficile cheminement vers la foi au Dieu unique.
Alors maintenant, si on passe au chapitre suivant, donc le chapitre 20, là, donc ça passe sans transition à un récit de conflit entre Jérémie et un prêtre influent, donc nommé Pachéour, qui détestait les prophéties de Jérémie. Alors, nous dit donc le verset 2 de ce chapitre 20, « Pachéour frappa le prophète Jérémie et le fit attacher au pilori, qui est à la porte haute de Benjamin, celle de la maison du Seigneur. » Alors le pilori, donc, je pense que tout le monde le sait, était un poteau hein, ou un dispositif auquel un condamné était attaché pour être exposé, temporairement quand même, au grand public. Donc le but hein, est donc d'humilier Jérémie, hein, de faire qu'on se moque de lui hein, dans un endroit où beaucoup de monde passait. Mais Jérémie ne se laisse pas démonter pour autant. Alors une fois libéré, il contre-attaque en prophétisant donc la déportation à Babylone, et particulièrement celle de ce prophète, Pachéour, qui ne voulait pas croire les prophéties de Jérémie. Donc je vous lis la suite, donc le verset 6, hein, toujours de ce chapitre 20. « Toi, Pachéour, et tous les habitants de ta maison, vous partirez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras. Tu y seras enterré, toi et tous tes amis, auxquels tu as prophétisé des mensonges. » Alors c'est intéressant de voir que, donc, malgré toutes les humiliations hein, qu'il a pu subir, et même face à l'autorité d'un prêtre important, qui le ridiculise hein, publiquement, ben, Jérémie reste ferme hein, sur ce qu'il doit annoncer. Alors il gémit beaucoup sur son sort, hein, mais dans le fond, il a une confiance absolue dans ce que Dieu lui montre de la situation et sur ce qui se prépare. Il est sûr d'être un vrai prophète hein, et attaque donc les fausses prophéties des autorités religieuses.
Oui, et il va même préciser ses prévisions, puisqu'il est maintenant clairement question de la déportation à Babylone. Le texte veut donc nous prouver, je pense, que ce qu'annonçait Jérémie s'est effectivement produit, et qu'il est bien un vrai prophète, puisque l'histoire lui a donné raison. Ce qui n'empêche pas, dans notre texte, Jérémie d'entonner une nouvelle et heureusement dernière lamentation, il y en a que cinq, qui va se développer jusqu'à la fin du chapitre 20. Comme c'est la dernière lamentation, on va en lire quelques versets. D'abord le début, chapitre 20, versets 7 et 8. « Seigneur, tu m'as séduit, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. » Et lisons encore la fin vraiment dramatique de cette plainte, les versets 14 à 18. « Maudit soit le jour où je suis né. » Le jour où ma mère m'a enfanté, qu'il ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui annonça à mon père cette nouvelle qui le combla de joie, il t'est né un fils, un garçon. Cet homme deviendra pareil aux villes que le Seigneur a renversées sans pitié, il entendra la clameur au matin et le cri de guerre en plein midi. Maudit soit le jour qui ne m'a pas fait mourir dès le ventre. Ma mère serait devenue mon tombeau et son ventre me porterait pour toujours. Pourquoi donc suis-je sorti du ventre? Pour voir peine et tourment, et mes jours s'achever dans la honte. » Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous venons de terminer la lecture du chapitre 20 du livre du prophète Jérémie sur une terrible lamentation. Et nous arrivons maintenant à un autre genre littéraire, puisque les chapitres 21 et 22 vont faire de nombreuses références à la situation politique en parlant des rois auxquels Jérémie se trouva confronté. Malheureusement ici, histoire ne veut pas forcément dire ordre chronologique. Et c'est, vous le savez, une des grandes difficultés de ce livre composé comme un patchwork. Sa rédaction s'est étalée sur des générations où chacun a voulu ajouter des précisions, mais sans vouloir construire un enchaînement logique comme nous les aimons tant à notre époque. On dirait plutôt que les auteurs privilégiaient un rythme d'alternance, sans trop se préoccuper de continuité. Ce qui, me semble-t-il, nous oblige vraiment à devoir lire l'ensemble du livre en le regardant globalement comme un tableau où les éléments se répondent et se complètent pour finalement créer du sens. Et il est long, ce livre. Bref, le chapitre 21 commence par nous parler du roi Sédécias, donc le dernier des rois de Juda, quand il fait consulter Jérémie à propos des Babyloniens qui vont attaquer. Chapitre 21, verset 2. « Consulte donc pour nous le Seigneur, car Nabucodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être le Seigneur va-t-il faire en notre faveur un de ses miracles pour que s'en aille celui qui nous assiège. »
Alors, est-ce que ce roi est complètement inconscient ou drôlement gonflé, hein? Voilà des années que Jérémie proteste contre les mauvais agissements de Juda, qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Et le roi n'hésite pas à demander un miracle pour être tiré d'affaire quand les problèmes arrivent. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est lent à comprendre ce que lui annonce Jérémie. Et ici, la réaction de Dieu est immédiate, au verset 5, donc toujours de ce chapitre 21. « Moi-même, je vous ferai la guerre par ma main puissante et la force de mon bras, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. » Je frapperai les habitants de cette ville, l'homme et le bétail. Ils mourront d'une grande peste. Après cela, oracle du Seigneur, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, ceux qui dans cette ville auront échappé à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie. On les passera au tranchant de l'épée sans merci, ni pitié, ni compassion. Alors, bon, il faut espérer que cette fois, le message sera entendu et compris. Mais ce n'est pas tout, parce que derrière cette colère de Dieu, qui paraît pourtant absolument irréversible, il y a en plus une proposition, on peut appeler ça comme ça, pour éviter ce carnage. Dieu donne encore un choix possible, donc un petit peu plus loin au verset 8, voilà ce que dit Dieu. « Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. »
Ce qui ressemble un peu à une proposition qu'on trouvait dans le livre du Deutéronome. Nous sommes là, pourtant, au cœur même de la mission du prophète Jérémie. Il doit maintenant persuader le roi de Juda de prendre la bonne décision, celle qui peut encore les sauver. Le verset 9 continue. « Qui restera dans cette ville ?» mourra par l'épée, la famine ou la peste. Mais qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens, vos assiégeants, celui-là vivra, il aura la vie sauve comme part de butin. Donc voilà le choix. Dieu a décidé la victoire de Nabucodonosor et la destruction de Jérusalem. Mais ceux de Juda qui veulent sauver leur vie, ils n'ont qu'à se rendre. C'est cela le bon choix que vient proposer Jérémie. Mais qui est capable d'accepter cela? Qui serait d'accord pour faire un tel choix qui est d'une triste capitulation sans honneur? Je crois qu'il n'y a qu'à faire un parallèle historique avec le maréchal Pétain pour nous rendre compte que la capitulation, ça choque.
Oui, c'est même vu.
Et qu'elle ferait passer le roi Sédécias pour un misérable collabo, ce qu'il n'a pas envie. Et même Jérémie lui-même, cette étiquette de collabo va lui coller à la peau et on ne comprendra pas son message. Et il sera d'autant plus considéré comme un traître et un faux prophète qui veut la perte de son peuple. Et c'est sans doute pourquoi ce passage du texte est immédiatement suivi d'un petit patchwork différent, un oracle qui redit une nouvelle fois les griefs de Dieu contre Judas et les sanctions qui vont découler. Chapitre 21, verset 14. « Je sévirai contre le fruit de vos actes, oracle du Seigneur. À la maison de la forêt, je mettrai le feu, il dévorera tout ce qui l'entoure. »
Cette maison de la forêt est le nom qu'on donne au palais royal, par allusion au nombre incalculable de troncs d'arbres qui furent utilisés pour le bâtir. Donc l'oracle annonce donc l'incendie de la maison du roi, et par suite donc celui de tout Jérusalem. Et cela termine donc le chapitre 21. On devrait logiquement avoir ensuite l'histoire du siège de Jérusalem, mais pas du tout. Le texte revient en arrière et le chapitre 22 recommence à prévenir le roi de Juda d'une manière générale. Donc je vous lis le verset 3 de ce chapitre 22. Pratiquez le droit et la justice, délivrez l'exploité des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Ne leur faites pas violence et ne versez pas en ce lieu le sang de l'innocent. Et un petit peu plus loin, au verset 5. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, j'en fais serment par moi-même, oracle du Seigneur. Cette maison ne sera plus qu'une ruine. Et encore un petit peu plus loin, verset 8-9. Alors, des gens de nombreuses nations passeront près de cette ville. Ils se diront l'un à l'autre. Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité cette grande ville? On leur dira, c'est qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, leur Dieu, pour se prosterner devant d'autres dieux et les servir. Donc, voici à nouveau annoncée la destruction prochaine de Jérusalem. Toutes ces répétitions peuvent nous étonner, mais il ne faut pas oublier que répéter est la façon habituelle en hébreu de faire comprendre l'importance des choses.
Oui, nous, ça nous lasse un peu, mais oui, pour eux, c'est un style. On devrait même se demander si la composition de l'ensemble du livre, qui passe sans arrêt d'un oracle à un appel à conversion, puis à une lamentation, puis à une annonce de châtiment, le tout entrecoupé de messages d'espérance, si ce n'est pas fait justement pour donner une impression de chaos, pour montrer à quel point la situation est compliquée, difficile pour le peuple hébreu à ce moment-là. C'est comme si on secouait le lecteur pour le préparer à aborder la catastrophe totale qui va arriver bientôt, malgré tous les avertissements de Jérémie. En tout cas, le chapitre 22 se continue avec une évocation du roi Joachaz, c'est-à-dire deux rois avant celui dont on vient de lire l'histoire. « Ne pleurez pas, dit le verset 10, sur un mort. N'ayez pour lui aucun geste de deuil. Pleurez plutôt sur celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne verra plus son pays natal. » Oui, ainsi parle le Seigneur au sujet de Shalum, fils de Josias, qui régna à la place de Josias son père, et qui est sorti de ce lieu. Il ne reviendra plus ici, car il mourra dans le lieu où l'on l'a déporté, et ce pays, il ne le verra plus. Il est donc question ici d'un certain Shalum, mais il est bien question du roi Joachaz, c'est son deuxième nom. Encore compliqué, les rois avaient souvent deux noms, et on peut le lire à plusieurs reprises dans le livre des rois ou dans le livre des chroniques. Et Joachaz Shalum n'a régné, nous dit le livre des rois, que 3 mois, en moins 609, juste après la mort de son père Josias. Ensuite, il fut destitué par le pharaon Nécao II et emmené en Égypte, où il mourut. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 22. En remarquant que le texte nous promène entre une annonce de la future déportation en Babylone qui aura lieu en moins 587 et des événements passés comme la triste fin du roi Josias, du fils du roi Josias, Joachaz, qui fut lui aussi déporté, mais en Égypte en moins 609, donc 22 ans auparavant. Vient ensuite, chapitre 22, versets 13 à 19, un paragraphe consacré cette fois au roi Joachim. Il s'agit en fait du frère aîné de Joachaz, dont le nom était en réalité Eliakim, et qui, étant favorable à l'Égypte, fut imposé comme nouveau roi par le pharaon Nécao II. J'espère que vous suivez. Et c'est ce pharaon qui changea son nom en Joachim. Alors, ce changement de nom marquait en fait la soumission à l'Égypte. Le pharaon exige qu'il porte un autre nom. et qu'il, en plus, lève des impôts sur le pays de Juda pour verser un tribut, un gros, lourd tribut à l'Égypte. Et ce ne fut apparemment pas le seul méfait du roi Joachim, si l'on en croit la suite du texte de Jérémie. Je vous lis les versets 13-14 du chapitre 22. « Malheur à qui bâtit sa maison au mépris de la justice et ses chambres hautes au mépris du droit, qui fait travailler gratuitement son prochain et ne lui verse pas de salaire. Lui qui se dit « Je vais me bâtir une maison bien vaste et de spacieuses chambres hautes. Il perce des ouvertures, recouvre de cèdres, il enduit de vermillon. »
Donc là, on voit que Jérémie décrit un roi qui a recours au travail forcé, voire à l'esclavage, pour se faire construire une luxueuse demeure. Alors, si on pense qu'un écrasant tribut vient d'être versé à l'Égypte, et cela dans une période de crise, il semble que ce roi est vraiment une caricature du mauvais dirigeant, hein, de ceux qui cherchent le pouvoir pour leur seul bénéfice, opprimant le peuple sans aucun état d'âme. Alors c'est pourquoi Jérémie ajoute quelques phrases bien senties. Donc je vous lis un petit peu plus loin, toujours dans le chapitre 22, les versets 15 à 19. « Règnes-tu pour ta passion du cèdre? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? Il pratiquait aussi le droit et la justice, alors pour lui tout allait bien. Il défendait la cause du pauvre et du malheureux, alors tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître, oracle du Seigneur? Mais toi, tu n'as des yeux et un cœur que pour ton profit, pour verser le sang de l'innocent et agir dans l'oppression et la brutalité. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur au sujet de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, on ne fera pas sur lui cette lamentation « Mon frère, quel malheur, ma sœur, quel malheur !» On ne fera pas sur lui cette lamentation « Quel malheur, mon Seigneur, quel malheur, majesté !» On l'enterrera comme on enterre un âne, traîné et jeté loin des portes de Jérusalem. Donc là, Jérémie lui a donc prédit une mort honteuse, on le compare à un âne quand même. Mais quand car on sait que la construction du palais dont il est question s'est faite entre moins 608 et moins 604. On est donc encore au tout début du ministère du prophète.
Oui, ça fait partie de la marche arrière, qui sert à quoi ? Ben, sans doute à récapituler. Un genre de récapitulation historique pour montrer l'enchaînement des mauvais comportements qui se sont accumulés et qui vont entraîner la déportation à Babylone. Toujours est-il que le texte intercale maintenant un oracle contre une figure féminine cette fois, qui est une sorte d'abstraction, une personnification de Jérusalem. Versets 20 et 20 à 23 du chapitre 22. « Monte au Liban et crie, dans Bashan donne de la voix. » Crie des hauts des Avarim, car tous tes amants sont brisés. Je t'ai parlé quand tu étais tranquille, quand tu as dit « Je n'écouterai pas ». Telle fut ta conduite depuis ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs, le vent les emmènera, et tes amants s'en iront captifs. Alors tu seras honteuse et confuse à cause de toute ta méchanceté. Toi qui sièges au Liban, qui es niché dans les cèdres, combien tu gémiras quand douleurs et frissons viendront sur toi, comme sur la femme qui accouche. Voilà, les amants dont il est question ici sont certainement les alliances politiques avec les grands pays qui entourent Israël. Les rois de Juda étaient tentés en effet de s'allier soit avec la Syrie, soit avec l'Égypte, pour bénéficier de leur protection. Mais de ces calculs sordides, rien de bon ne sortira. De ces alliances, le petit pays devenu vassal n'aura comme seul résultat que d'être écrasé d'impôts, sans pour autant vivre beaucoup plus en sécurité.
Et c'est là Nabucodonosor, donc Babylone, qui vient dominer tout le monde. Et Jérémie a bien compris qu'il serait ridicule de vouloir se révolter contre ce pouvoir-là. Il dit donc au roi de Juda de se soumettre pour que le peuple reste en vie. Et c'est du simple bon sens. Il est peut-être le seul à garder un peu de lucidité devant la puissance de Babylone. Malheureusement, ces anticipations n'auront aucun effet. En revenant à la récapitulation historique de ce chapitre 22, ce chapitre prend avec un oracle contre Yéconias, donc le fils de Joachim, devenu à son tour roi de Juda. Donc je vous lis donc les versets 24 à 27. Par ma vie, oracle du Seigneur, Yéconias, fils de Joachim, roi de Juda, si tu étais un anneau à ma main droite, je t'en arracherais. Je vais te livrer aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, aux mains de ceux qui t'épouvanteront, aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, aux mains des Chaldéens. Et je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, sur une autre terre où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Sur la terre où ils désirent ardemment revenir, ils ne reviendront pas. Apparemment, ce Yéconias donc, est le fils de Joachim, dont le nom hébreu est en fait Joachim. Ah, j'espère qu'à la radio, on fait la différence entre le M et le N. Donc, et c'est en grec qu'on l'appelle Yéconias. Donc tous ces changements de nom ne nous facilitent pas la compréhension du texte.
Non, pas vraiment. Et en plus, ils se ressemblent vraiment. Il y a de quoi les confondre. Je crois que pour mieux comprendre ce que veut dire l'oracle contre Yéconias, donc ce serait intéressant de lire ce qu'en dit le livre des rois, qui raconte tout ça, chapitre 24, versets 12 à 15. Parce qu'il s'agit d'un premier siège de Jérusalem par Babylone, qui eut lieu en moins 597, donc une dizaine d'années avant. Alors Joachim, roi de Juda, sortit au-devant du roi de Babylone, lui et sa mère, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers. Le roi de Babylone le fit prisonnier. Je passe quelques mots. Il emporta tous les trésors de la maison du Seigneur et tous les trésors de la maison du roi. Et il déporta tout Jérusalem, en fait tous les chefs, tous les gens riches, soit 10 000 déportés, tous les artisans du métal et les serruriers, il ne resta que les petites gens du pays. Il déporta Joachim à Babylone, ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers et les princes du pays. Il les emmena en déportation de Jérusalem à Babylone. Et j'ajoute encore le verset 17 de ce chapitre 24 donc du livre des rois, qui nous explique que le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim son oncle Matania, dont il changea le nom en Sédécias. Et là, on arrive à boucler la boucle de tout ce labyrinthe. Donc, nous n'avons pas fini avec les changements de nom des rois. En tout cas, Joachim, qui est aussi Yéconias, va donc mourir en exil, ainsi que sa mère. Et c'est ce que lui prédit Jérémie. On peut penser donc que cet oracle a eu lieu en moins 597, lors de la première déportation.
Voilà. Et donc le chapitre 22 de Jérémie se termine sur un terrible constat d'échec de la vie de Yéconias, ou Joachim, si vous voulez. Ainsi parle le Seigneur au sujet de cet homme, inscrivez, sans postérité, individu qui n'a pas réussi dans sa vie, car aucun de ses descendants ne réussira à siéger sur le trône de David et à dominer encore en Juda. Voilà, un terrible échec de sa vie, mais au moins sa capitulation lui valut d'avoir la vie sauve, car en exil, les déportés eurent une fin de vie presque normale. On les fera simplement travailler au bénéfice de Babylone, mais s'il n'eut pas de descendants, pour régner sur Jérusalem, il y avait encore quand même un oncle. Donc c'est le troisième fils de Josias, favorable à Babylone, de qui il reçoit donc le nouveau nom, le Sédécias. Alors on peut penser que Jérémie devrait encore être content, puisque voilà un collaborateur de Babylone sur le trône.
Ben oui, enfin, c'est ce qu'il voulait.
Bon, même si au début de son règne, Sédécias semble avoir eu quand même de bonnes intentions, et qu'il a même recherché les conseils de Jérémie au moment critique, comme on le verra plus tard. Pourtant, tout va encore tourner de travers.
Mais oui, mais il faut bien se rendre compte que, puisque tous les fonctionnaires royaux, toute l'intelligentsia a été déportée à Babylone lors du premier siège, on a Sédécias encore jeune qui se retrouve finalement roi, mais quasiment seul. Il va devoir s'entourer d'hommes nouveaux, sans expérience, il sera mal conseillé et cela aura des conséquences absolument désastreuses. Mais comme nous n'aurons pas le temps d'approfondir toute l'histoire de Sédécias, le dernier roi de Juda, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux que nous arrêtions ici notre émission pour laisser le suspense jusqu'à la prochaine émission. Au revoir donc, chers auditeurs, à très bientôt pour la suite du livre de prophète Jérémie.
Au revoir Catherine, au revoir à tous, à bientôt.